Donc je prie pour toi.
Oui, s'il te plaît. Merci.
D'accord. Eh bien, Seigneur Jésus, je veux te remettre Eric, Seigneur, pour tout ce que tu lui as donné par le Saint-Esprit à partager ce matin à l'Église. Seigneur, merci pour tout ce que tu feras, Seigneur, pour lui. Seigneur, que nous soyons à l'écoute de ta parole. Amen.
Amen. Amen. Merci, Aline. Le Saint-Esprit avait mis à cœur, dans le cœur du pasteur Christian, la nécessité d'être conduit par le Saint-Esprit. Je pense qu'aucun des prédicateurs qui sont ici, je pense au pasteur Olivier, ni au pasteur Christian, ni à moi-même, nous considérons que c'est une joie de venir prêcher. Nous sommes appelés par le Seigneur à apporter sa parole. Nous ne sommes que des canaux à son service. Et bien souvent, le Seigneur me donne cette conviction qu'un tel ou un tel est appelé à apporter la parole. Et je me place aussi devant le Seigneur. Lorsque j'ai rédigé le message, parce que je prends du temps dans la méditation, en fait, je voulais partir dans un sens, mais le Seigneur m'a complètement orienté dans un autre. Ça lui arrive très souvent avec moi. Donc j'ai l'air un peu parfois désorienté, mais je trouve toujours mon orientation en Jésus. Amen. Et c'est en Christ que nous trouvons notre chemin. Dimanche dernier, il nous avait été évoqué la nécessité pour chacun de posséder la bonne adresse. Et le risque, si nous ne la possédions pas, serait de nous égarer, de tourner en rond, de perdre notre temps, de nous affoler, de ne pas être au rendez-vous. Et lorsque nous ne sommes pas au rendez-vous, parce que nous sommes tout simplement égarés, perdus, eh bien commence le stress, l'absence de confiance, surtout que l'urgence est au rendez-vous, comme le rappelait Sabine dimanche dernier. Elle nous avait dit, nous espérons que vous serez là dans un quart d'heure. Et nous étions comme affolés. Vous avez vécu ces moments de doute où vous-même, vous n'aviez pas la bonne adresse. En ce moment, peut-être, vous êtes dans cette difficulté. Je m'adresse à chacun d'entre vous. Je me suis égaré. Je suis perdu. Quelle est la bonne adresse? Quelle est la bonne adresse? En évoquant notre perte de temps à chercher désespérément l'adresse d'un ami, Sabine nous confiait ceci. Jésus est la bonne adresse. Amen. Jésus est la bonne adresse. Et il est important que chacun d'entre nous d'être doté de la bonne adresse. Cette adresse, vous l'avez compris, ce n'est pas un numéro de rue, ce n'est pas un lieu. Cette adresse est une personne. Oui, une personne qui est seule capable de nous donner la boussole, les bons repères. Jésus est la bonne adresse. Ce n'est pas ce lieu qui est la bonne adresse. Ce n'est pas le 15 rue des Rémouleurs qui est la bonne adresse. Mais Jésus est la bonne adresse. J'espère que vous n'êtes pas venu au 15 rue des Rémouleurs parce que c'était la bonne adresse. Parce que alors là, vous vous trompez de chemin. L'Église n'est pas le bon chemin. C'est Jésus qui est le bon chemin. C'est Jésus qui est la personne. Et nous, nous incarnons l'adresse de Jésus parce qu'il vient résider en nous, parce qu'il vient habiter en nous. Et nous formons l'Église. Nous formons l'Église. Chercher, mes amis, le royaume des cieux, ce n'est pas chercher un lieu. C'est c'est chercher la personne de Christ qui entend habiter pleinement en vous, pleinement en toi, pleinement en moi. Cette adresse qui nous mène à Jésus est le chemin qui nous conduit à la vérité, à la vie. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est la seule parole, il y a 40 ans de cela, qui a touché mon cœur, qui a impacté mon cœur. Parfois, je l'ai oublié. Mais Jésus est le chemin, la vérité et la vie, le bon chemin qui me mène à la bonne adresse. Et c'est lui, c'est ce que le Seigneur m'a fait découvrir il y a 40 ans de cela. 42 ans exactement. Nous rendre chez Jésus, ou plutôt accueillir le Fils de Dieu, c'est recevoir la vie. En empruntant ce chemin pour aller à ce rendez-vous que Jésus nous donne, nous recevons toutes ces choses, à commencer par la vie en nous. Or la vie, la vraie vie, mes amis, ce n'est pas l'abondance de biens. Ce n'est pas la réussite sociale. Ce n'est pas un parcours sans échec. Ce n'est pas une trajectoire facile, sans obstacle, sans épreuve. Une vie qui serait sans chemin de traverse. La vie en Jésus, c'est l'assurance d'obtenir sa joie et sa paix. Et surtout, mes chers amis, mes frères et sœurs, d'être aimé tel que je suis. D'être aimé tel que je suis. Vous savez, dans notre jeunesse, ou dans votre jeunesse, dans votre propre parcours, dans votre propre trajectoire, vous avez pu les uns et les autres être confrontés par le mépris que vous renvoyez l'image de l'autre. Mais Jésus t'aime tel que tu es. Tel que tu es. La vie en Jésus, c'est l'assurance d'obtenir sa paix, d'être passionnément aimé par le Père, qui nous aime comme il a aimé Jésus, qui nous aime comme il a aimé Jésus, et je l'ai rappelé dimanche dernier, en vous citant le texte de Jean 17. Dieu a aimé Jésus, mais vous savez que vous êtes aimé de la même façon que le Père a aimé Jésus. Parfois, nous mettons du temps à comprendre, et moi je fais partie de ceux qui mettent du temps pour comprendre. Mon beau-père, lui, il a mis près de 40 ans avant de comprendre. Sabine n'est pas là, elle est près de son père, du père et de son père, de son papa bien-aimé, qui a 93 ans à donner son cœur à Jésus. Et quelle joie pour nous tous, quelle joie! Et la surprise de ma belle-mère, c'est de ne plus l'entendre parler de lui, mais de n'entendre parler que des autres, de son prochain, de se soucier des autres. Il a découvert Jésus, la bonne adresse. En recevant Jésus dans ton cœur, dans ta vie, ton chemin à toi, eh bien, ne s'arrêtera pas là. Car Dieu a des projets pour toi. Et je m'adresse à tous. Dieu a des projets pour toi. Je m'adresse à tous. Tu sais que le Seigneur a des projets pour toi. Amen. Je m'adresse à chacun d'entre vous, je vous regarde tous, mais de la part du Seigneur. Dieu a des projets pour toi. Dieu t'a choisi. Il t'a choisi. Depuis la nuit des temps, depuis le commencement du monde, il t'a choisi. Et je m'adresse à vous, là, jeunes gens. Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi. Il t'a choisi parce qu'il veut que tu grandisses à sa ressemblance. En cherchant le royaume de Dieu, en t'exhortant à chercher le royaume de Dieu, le Seigneur t'appelle à embrasser la vie qu'il veut déverser en toi et faire de toi un disciple. Dieu ne nous a jamais appelés à devenir ce que l'on appelle aujourd'hui, pourtant c'était exact, mais à l'origine, quand nous étions appelés chrétiens, cela avait du sens. On comprenait que c'était comme Christ. Aujourd'hui, c'est presque un mot religieux. Je suis chrétien, mais cela ne veut rien dire. Pasteur Olivier, tu nous l'as rappelé dans ton exhortation. Nous sommes appelés à être des disciples de Jésus-Christ. C'est plus difficile de dire à autrui, je suis un disciple de Jésus. Allez, faites l'effort de le dire et vous verrez quelle difficulté de l'annoncer ainsi. Le Seigneur a beau à faire avec des croyants, parce que des croyants, même le diable croit en Dieu. Mais des disciples qui mettent leur foi, et cela nous a été rappelé, je crois, jeudi, la foi en Dieu. Le Père recherche des personnes qui ont foi en lui, qui le connaissent personnellement, qui cultivent cette intimité avec Jésus, cette relation intime avec le Seigneur. Tu es appelé à recevoir la vie de Jésus en toi, une vie en plénitude pour ressembler à Jésus. Non plus ressembler à toi-même, mais ressembler à Jésus. Parce que Eric qui ressemble à lui-même, c'est pas quelqu'un de fréquentable. Mais quand Jésus habite en moi, ouah, là on peut le rencontrer. Amen. Je ne veux pas vous faire connaître le Eric. Il y a 40 ans de ça, 42 ans de ça. C'était juste une personne pas fréquentée. Mais Jésus transforme les cœurs irrémédiablement, radicalement, et réforme tous les aspects de notre vie. Et moi, je suis en réforme. Hein, d'accord ? Je me laisse réformer. Ne pensez pas qu'à 62 ans, on est arrivé à se réformer complètement. Je crois que ce n'est qu'un parcours. Et à 63 ans, on continue d'être réformé. À 77 ans, on continue notre réforme en Jésus. Amen. Et au-delà, à 93 ans, comme je vous l'ai dit, tu es appelé à chercher le royaume de Dieu, non à t'inquiéter du lendemain. Mes frères et sœurs, ne vous inquiétez pas du lendemain. Non à te laisser submerger par l'échec de ta vie, par les divorces, par les séparations, par les soucis qui nous étreignent, par l'échec professionnel. Vous savez, au début de ma carrière professionnelle, c'était échec sur échec, échec sur échec. Quand je regarde, parce qu'il fallait expliquer son parcours à sa caisse de retraite, et qui disait, mais j'ai besoin de tel ou tel papier, j'ai aussi expliqué ma trajectoire. Là, on est mis à nu, on ne peut pas les leurrer. Ne vous laissez pas submerger par l'échec. Ne te laisse pas envahir par les soucis de la vie. Et je m'adresse à chacun et chacune d'entre vous. Ne dis pas, oh, moi, je n'ai pas de soucis. On a tous, quelque part, un petit souci ou un grand souci, peu importe, c'est un souci. Ne t'embarrasse pas non plus des affaires du monde. Ce n'est pas ta priorité, les affaires de ce monde. Cherche d'abord le royaume des cieux. C'est ça qui nous est dit dans la parole. Cherche d'abord le royaume des cieux. Amen. Dieu sait pourtant que tu as besoin de toutes ces choses. Tu as besoin de nourriture pour vivre. Tu as besoin d'être dans la paix dans ton travail. Tu as besoin dans ta vie scolaire de réussir. Parce que Dieu veut se servir de ta formation. Tu as besoin de certitude pour le lendemain. Dieu le sait. Et il sait que tu as besoin de réponses pour avancer. Parce que celui qui n'a pas de réponse n'avance pas. Mais chemine dans ta vie et ne te laisse pas vaincre par l'adversité. Dieu t'invite à chercher, premièrement, d'abord, le royaume des cieux. Amen. Dieu t'invite à chercher premièrement le royaume des cieux. Je veux ici vous rappeler cette parole qui nous a été donnée lors de ce culte, le dernier culte, Matthieu chapitre 6, verset 31. « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? » C'est le contraire de ce que j'ai dit. Que boirons-nous ? Mais j'aime bien imaginer parce que ça nous frappe tout de suite. Que boirons-nous ? De quoi serons-nous habillés et vêtus ? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est pas moi. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Qu'est-ce qui est dit ? Ne vous inquiétez pas du lendemain. Peut-être que tu penses à lundi. Mais tu sais, le lundi, il va prendre soin de lui-même. Et à chaque jour suffit sa peine. C'est aujourd'hui que Dieu nous donne ce rendez-vous. Alors mangeons, consommons, buvons ce que Dieu nous donne. Mon cher frère, mon ami, ne t'inquiète pas de ce lendemain. Ne t'inquiète donc pas de mardi, parce qu'après le lundi, il y a mardi. Ne t'inquiète pas de mercredi, ni de jeudi. Alors là, jeudi, j'ai des rendez-vous. Et vendredi, ne parlons pas du vendredi, le dernier jour de la semaine où mon patron m'a convoqué, peut-être, où j'ai un rendez-vous avec un frère et je ne sais pas ce qu'il va me dire. Bien, mes amis, lundi prendra soin de lui-même et à chaque jour suffit sa peine. Le Seigneur sait que tu es dans le besoin. Le Père connaît tes inquiétudes, mais il dit au creux de ton cœur, au creux de ton âme, cherche d'abord le royaume des cieux. Ne promène pas, merci Aline de l'avoir rappelé, il n'y avait aucune complicité. Ne promène pas des regards inquiets au sujet de ton avenir. Que ton regard soit exclusivement tourné vers Jésus. Que cette parole du prophète Ésaïe ait cette profonde résonance en toi. Je vous cite Ésaïe, chapitre 26, verset 9. Ésaïe 26, verset 9. Mon âme te désire pendant la nuit. Mon âme te désire pendant la nuit. Et mon esprit te cherche au-dedans de moi, dans mon fort intérieur. Mon esprit te cherche. Oui, mes amis en Christ, que votre âme le désire ardemment, que votre âme désire intensément dans la nuit, que votre cœur le cherche dans les moments sombres de votre existence, dans les moments de fatigue, dans les moments de lassitude, dans les moments où vous sentez que tout est en train de chanceler, de craquer, que le sol est en train de craquer sous vos pas. Cherchez-le intensément. Toute ma vie, j'ai connu parfois des échecs terribles, mais je l'ai cherché dans la nuit, intensément. Intensément. Le Seigneur répond. Le Seigneur répond. Le Seigneur ne t'abandonnera pas. Il prend ta main et il t'accompagne. Cherchez d'abord, le royaume des cieux. Le royaume des cieux nous rappelle Jésus dans l'évangile de Matthieu 13, 44-46. Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans la joie, il vend tout ce qu'il a. Ça veut dire qu'en fait, il se débarrasse de tout ce qui entrave sa vie, sa relation avec Jésus, parce qu'il a trouvé le royaume des cieux. Et je vais à sa suite. Je pense qu'il y a un appel pour chacun d'entre nous, nous tous ici, nous sommes appelés à suivre Jésus, à ne pas nous embarrasser des affaires de la vie et à dire « Seigneur, je te fais confiance, je te remets mon âme, je te remets ma vie, je te remets ma destinée, je te remets ma famille, je te remets mon travail, je te suis, Père. » C'est l'appel de Jésus, le royaume des cieux. Et il est dit, et c'est Jésus qui parle, il vendra tout ce qu'il a pour acheter ce champ. Mais nous, nous n'avons pas besoin de l'acheter, ce champ. Nous avons tout reçu par grâce. Il nous a fait héritiers du royaume des cieux. Nous sommes conduits à être dans sa résidence. Et c'est cadeau. C'est un don. Dieu vous offre sa vie. C'est magnifique de suivre Jésus. Cherchons ensemble et d'abord le royaume des cieux et répondons à cet appel du Seigneur. Cet appel que nous lisons dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 18. Je te conseille, mon frère, ma sœur, Eric, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche, afin que tu sois vêtu de vêtements blancs. Alors tu te dis, mais ma vie, regarde Seigneur, ma vie, regarde ce qu'est ma vie. Le Seigneur te revêt de vêtements blancs. Il ne regarde plus à ton passé, tu es racheté. Il t'a purifié. Il te revêt de vêtements blancs. La honte de ta nudité, la honte d'Adam, qui découvra qu'il était nu, Jésus nous revêt de vêtements blancs. Et un collier, parce qu'on a besoin, oui, de collier. De collier, parce que finalement, nous voyons avec les yeux de notre chair. Mais Dieu veut que nous voyions avec ses yeux célestes, avec ses propres yeux. Cela change mon regard. Quand je regarde mon frère, ma sœur, je vois Christ en lui. Si chacun d'entre nous cessait de voir Eric, ce serait un gros progrès. Et en tout cas, un gros progrès si moi je grandis en lui, parce que vous verrez Jésus. Et en fait, je ne veux pas voir en mon frère, mais la personne de Christ qui habite en lui. Et donc, je n'ai plus envie de le juger. J'ai plus envie de pointer son doigt, de murmurer contre lui, parce que c'est Jésus qui est en lui. Même s'il est imparfait, il est revêtu d'un vêtement blanc. Et Dieu sait si vous savez combien je suis imparfait. Mais Dieu m'a revêtu d'un vêtement blanc. Et il a revêtu mon frère Pascal d'un vêtement blanc. Il est magnifique, mon frère, vous ne trouvez pas ? Amen ! Il est la beauté du Seigneur. C'est comme ça que Jésus le voit. Jésus voit en chacun d'entre vous quelqu'un de beau. Tu diras, mais Seigneur, tu ne vois pas, je suis en train de boiter, je suis fatigué. Seigneur, ne regarde pas ton corps, il ne regarde pas ce que tu es, mais il regarde la personne de Jésus qui habite en lui. Et tu es splendide, tu es beau, tu es magnifique. Et je le dis à chacun d'entre vous, tu es aimé tel que tu es. Cherchez d'abord le royaume des cieux, mes chers amis. Ce n'est pas chercher la pensée de ce monde. Ce n'est pas épouser ce monde. Ce monde, Dieu nous dit, il est inimitié, il est hostile à Dieu. Le monde est hostile à Dieu. Il est en guerre contre celui qui a décidé de laisser Jésus résider en lui. Il est en guerre. Mais ce n'est pas une guerre contre la chair. Ne vous méfiez pas, ne soyez pas en guerre contre les hommes. Ne soyez pas en guerre contre celui qui est en révolte contre vous. Notre guerre est spirituelle. Ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons lutté. Nos armes sont spirituelles. Nos armes, c'est un combat en Christ par le Saint-Esprit. Laissez-nous transformer par lui pour grandir à sa ressemblance. La volonté de notre Père céleste pour nous tous est que nous croissions et développions le caractère de Jésus. En menant une vie pleine de charité, pleine de douceur, que ta douceur soit connue de tous les hommes. Si c'est ta colère qui est connue de tous les hommes, et cela nous a été rappelé hier, accueillons les enfants, accueillons les jeunes adolescents, accueillons les jeunes gens qui vont venir, mais n'arrivons pas avec un coup de bâton, il faut que tu te transformes, change ton habit, change tes vêtements. Ce n'est pas comme ça qu'il faut se vêtir dans l'église. Tu as une chaussure noire, tu as une chaussure blanche. Eh bien, amen! Parce que en fait, tu es très musical. Amen! Tu viens en soquette, amen! Jésus ne regarde pas à la façon dont tu te coutres, dont tu es habillé, dont tu t'es accoutré. Non, le Seigneur regarde à ce que tu es, il regarde au cœur. Willy nous l'a rappelé dimanche, notre frère Willy, en citant le proverbe 19-17. Dieu nous appelle à une forme de renoncement de soi. Et dans ce proverbe 19-17, Willy rappelait que celui qui aime le plus démuni parmi nous et vient à son secours, prête à l'Éternel. Et cela avait profondément touché le cœur de mon frère. Cette parole de Paul le confirme, que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui de son prochain. Je reconnais un disciple quand il ne cherche pas son intérêt, mais qu'il cherche l'intérêt de son prochain. Aussi, mes frères et sœurs, ça c'est une parole qui doit s'imprimer dans nos vies et dans nos cœurs. Ne cherche pas ton intérêt. Mais que chacun cherche celui de son prochain. Si tu mets en premier ton prochain, tu sers Christ. Car Dieu a tant aimé qu'il a offert son propre Fils. Dieu n'a pas cherché son intérêt. Est-ce que vous pensez que c'était une joie pour le Père de mener son Fils à la croix? Vous le pensez? Qui donnerait son fils? Abraham n'a pas donné son fils. Et quand il a fallu le faire, le Seigneur l'a arrêté, mais il ne voulait pas. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Père, tu me demandes de sacrifier. C'était une préfiguration de ce sacrifice absolu que le Père faisait. Moi, en tant que papa, quand j'ai appris que mon fils avait des problèmes de santé, je pense que vous pouvez être certains que j'étais à genoux devant le Père. Je n'étais pas prêt à donner mon fils à Dieu. Et gloire à Dieu, il n'a rien. Mais aucun père, je pense que nous sommes tous des papas, pour la plupart d'entre nous, nous n'accepterions pas que notre fils disparaisse. J'ai mon frère Hervé qui a perdu son fils, et il est toujours dans le chagrin. Dieu a donné son fils pour chacun d'entre nous. L'apparence, mes amis, importe peu aux yeux de Dieu. Ce que Dieu aime dans chacun d'entre nous, c'est notre cœur. Et aucun cœur n'est caché à son regard. Aucun cœur n'est caché à son regard. Michel me rappela ceci au cours de la semaine. Quand Dieu envoya Samuel pour choisir le futur roi dans la famille d'Isaïe, le regard de Samuel, pourtant prophète, pourtant homme de Dieu, Ouais. Ne vous fiez pas et ne vous confiez pas dans les hommes de Dieu. Surtout pas. Le regard de Samuel se posa en premier lieu sur Éliab. Ah ouais, Eliab, il est beau. Ah, c'est Brad Pitt. C'est Leonardo DiCaprio. C'est John Wayne. Ah, il est beau, il est magnifique, il est grand. Ah, il est grand, il est imposant. C'est lui qui est le prochain roi d'Israël. Oui. Ne sommes pas nous frappés par notre regard. Ah, il est bien habillé, il a un costard. Sérieux, le mec. Bravo. Impressionnant. Ouais. Mais l'Éternel dit, hé, mon coco, en parlant de Samuel, tu viens là, tu t'approches de moi. Dieu était certain.
Ouais.
J'ai encore des progrès. Dieu était certain. Enfin, plutôt, l'Éternel était, Samuel était certain que c'était Eliab qui avait été choisi. Mais il se trompait. Et l'Éternel dit à Samuel, ne regarde pas son apparence, ni à la hauteur de sa taille. Je l'ai rejeté, j'ai rejeté ce bonhomme-là qui est grand, fort, costaud, intellectuellement supérieur. Je l'ai rejeté, c'est pas lui qui m'importe. Ce qui est étrange, et c'est ça, Michel, tu me l'as fait connaître, mais... Isaïe n'a pas du tout présenté, il a présenté toute sa famille, sauf là, le petit là, qui est tout petit de taille, qui est moins que rien, mais qui... Mais qui est important aux yeux de Dieu, là, le tout petit là, vous savez, qui est moins que rien. C'est lui que Dieu appelle. Amen. Le petit là, qui est en train de faire brouter les brebis. Ouais, qui a une tâche d'éleveur. C'est lui que j'appelle, le petit, de petite taille. L'Éternel ne regarde pas ce à quoi l'homme regarde. L'Éternel ne regarde pas à ce à quoi l'homme regarde. Car l'homme regarde à l'apparence extérieure et l'Éternel regarde à quoi ?
Au cœur.
Au cœur. Amen. L'Éternel regarde à ton cœur. Willy, le cœur de Willy est important aux yeux de Dieu. Sa générosité, son amour. Les filles, Dieu regarde à votre cœur. Il ne regarde pas à votre apparence. Il regarde à votre cœur. C'est votre cœur qui intéresse Jésus. Amen. Dieu vous aime. Il vous aime tel que vous êtes. Il ne regarde pas l'apparence. Et nous non plus, nous n'avons pas à regarder à l'apparence. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, il nous faut avoir les sentiments qui sont en Jésus. Il nous faut rechercher premièrement le royaume des cieux. Il nous faut ainsi, et cela nous est rappelé dans Éphésiens 5.2, marcher dans l'amour à l'exemple de Jésus-Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande. Un sacrifice de bonne odeur. Nous sommes pressés dans les temps crépusculaires que nous vivons à rechercher le royaume des cieux. Laissons-nous façonner à la ressemblance de Jésus en trouvant la bonne adresse, Jésus-Christ. Christ a fait sa demeure en nous. Dans le livre de la Genèse, il nous a indiqué il nous avait été indiqué que nous avions été faits à l'image de qui ? Nous avons été faits à l'image de qui ? De Dieu. Nous ne sommes pas faits à l'image de nos parents. Nous sommes faits à l'image de Dieu, notre Père. En recherchant le royaume des cieux, nous cherchons à être en tout point semblables à Jésus. Aussi conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que nous avons été enseignés à nous dépouiller de quoi ? Nous dépouiller de notre vieille nature eu égard à notre vie passée, notre vie mondaine, celle du vieil homme. Et la Bible ajoute, ce vieil homme qui se corrompt par ses convoitises trompeuses, par la tentation de mener une vie sans la présence du Père en lui. Paul, dans Romains chapitre 8, verset 29, nous avons été tous connus d'avance. Depuis l'origine du monde, depuis la création du monde, nous avons été connus d'avance. Donc tu n'es pas venu par hasard. Quand bien même notre parcours, ta trajectoire a été chaotique, celle de tes parents chaotique, et se sont rencontrés de façon chaotique, tu n'es pas venu, tu n'as pas été appelé à la vie par hasard, car Dieu est souverain. Il nous a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, tous. Nous sommes appelés, en recherchant le royaume de Dieu, à refléter Jésus. L'Église, son corps, est appelé à refléter la tête de l'Église. Nous sommes appelés à refléter la tête de l'Église. Et la tête de l'Église, c'est Jésus. Dans 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 15, l'apôtre Paul pose une question fort pertinente. Il la pose à tous les chrétiens de Corinthe. Et il dit ceci, « Ne reconnaissez-vous pas à l'égard de vous-même que Jésus habite en vous. Jésus habite en vous. Amen. Jésus habite en toi. Jésus habite en toi. Donc quand je salue mon frère, je salue Jésus en lui. Et c'est pour ça qu'il nous est dit qu'à la fin des temps, mais qu'as-tu fait pour moi ? Chaque fois que tu as fait quelque chose pour ton frère, c'est à Jésus que tu l'as fait. Chaque fois que tu mets ton prochain en premier lieu, chaque fois tu mets Jésus en premier lieu. Jésus est en vous. Et quand Paul l'affirme, Jésus est en vous, il affirme bien que Jésus habite littéralement, pratiquement, à l'intérieur de nous tous. Nous sommes son corps. Si quelqu'un d'entre vous blesse son corps, si quelqu'un d'entre vous a de l'amertume envers son frère, il blesse Jésus. Plus tu t'emploies à chercher d'abord le royaume des cieux, plus nous sommes appelés à refléter Christ en nous. Amen. Le projet de Dieu, et c'est le message qui nous a été donné pendant ces 3 jours, le projet de Dieu pour l'Église, c'est que nous le reflétions dans nos actes, dans nos gestes, dans notre caractère, pour être en tout point semblable à Jésus. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Là, le miroir, je l'invite, et il va se diriger non pas vers moi, mais vers vous. 1 Corinthiens 13, 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons tous au moyen d'un miroir. D'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie. Mais alors, je connaîtrai. Et c'est une joie immense, je connaîtrai comme j'ai été connu. Et tu es connu comme un enfant que Dieu chérit et aime. Tu n'es connu que comme cela par le Père. Tu es connu comme un enfant que Dieu chérit et aime. Papa t'aime. Et pour les pères, ils savent bien que les enfants n'ont pas toujours été parfaits dans leur vie, dans leur existence, mais une maman, et je m'adresse aussi aux mamans, à toutes les mamans qui sont ici, vous aimez vos enfants, vous les chérissez. Bien, le Père les chérit aussi. Il les chérit, il les aime. Dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18, nous tous, qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Vous pouvez vous contempler, vous rayonnez la gloire du Seigneur. Vous êtes la gloire du Seigneur. Vous êtes la gloire du Seigneur. Amen. Vous êtes la gloire du Seigneur. Vous pouvez vous contempler sans honte, car Jésus a transformé vos cœurs et vos vies. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Nous sommes appelés à refléter et à refléter le royaume de Dieu en nous et sa justice. Et sa justice. J'ai beaucoup insisté sur le royaume des cieux, peu sur la justice, on le fera. Et le royaume de Dieu, c'est vraiment, comprenez que le Seigneur nous exhorte à aimer sa parole. Dans 2 Corinthiens, chapitre 2, 15. Merci, Pascal. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ. Vous êtes le parfum de Christ. Vous êtes non seulement beau en Christ, transformé en Christ, mais vous êtes son parfum. Amen. Et une bonne odeur. Une bonne odeur. Et cette odeur, elle sauve. Elle est destinée à sauver. Mais ceux qui se détournent de vous, qui se détournent pas de vous en réalité, ils se détournent de Christ. Dieu veut que nous soyons son parfum. Une bonne odeur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Là, je peux boire. Merci, Père. Je te remets ta parole, Seigneur, dans nos cœurs. Seigneur, que ta parole touche les cœurs, transforme les cœurs, parce que si ce n'est pas ta parole qui a touché les cœurs, alors c'est en vain que nous vous apportons celle-ci. Seigneur, nous voulons nous effacer devant ta Seigneurie, le Dieu de gloire qui se reflète en chacun d'entre nous. Et Père, tu te reflètes en chacun et chacune, en chaque frère, en chaque sœur, dans ton Église. Seigneur, merci que nous soyons appelés à porter le beau message de Jésus-Christ autour de nous. Merci, Père, de refléter en nous ta gloire au milieu de ton Église, le corps de Christ. Et cette bonne adresse, c'est toi, Seigneur. Ce n'est pas un numéro de rue, ce n'est pas le 15 rue des Rémouleurs. Mais la bonne adresse, c'est toi, ta personne qui réside en nous. Amen.